Hey, bienvenue à l'Eclectic Show, le podcast sur le développement personnel, la technologie qui améliore votre quotidien et où on parle de certaines de mes découvertes. Ce mois-ci, pour le mois d'août 2019, nous allons parler de plusieurs techniques pour vous aider à prioriser vos projets, votre vie en général. Vous allez voir, c'est super intéressant de voir toutes ces techniques-là, de les connaître tout du moins pour s'aider à s'améliorer, parce que dans les faits, c'est un peu ce qu'on cherche à faire. On a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est beaucoup, beaucoup sollicité, je dirais. Puis le problème qu'on voit de plus en plus, c'est des problèmes de priorisation. Et ces techniques-là, ben, vont vous aider ou vont vous faire réfléchir à comment prioriser pour, en fait, être capable de faire tout bien dans l'ordre. On va évidemment parler, comme d'habitude, de plusieurs services, applications qui sont disponibles et qui, elles aussi, ben, vont vous aider au jour le jour. Comme à tous les mois maintenant, j'en ai cinq super intéressantes et j'ai un petit boni pour tous ceux qui possèdent des téléphones iPhone pour les paramétriser sans les jailbreaker, sans les pirater en fait. C'est de la paramétrisation qui se fait à partir de wallpaper, d'images de fond. Et j'ai trouvé un site chinois ou japonais, excusez-moi, je n'arrivais pas à savoir vraiment quelle est la provenance du site, mais qui crée franchement des wallpapers et des papiers peints, en fait, vraiment chouettes et qui personnalisent d'une manière assez fabuleuse vos téléphones. Alors, sans plus tarder, on va commencer par le dossier du mois, le dossier sur la priorisation, où je vais vous parler d'un sujet qui touche tout le monde, en fait, parce que on a souvent beaucoup, beaucoup de projets dans la vie, beaucoup de choses, beaucoup de tâches à faire, et l'ennui, c'est de prioriser tout ça. Alors, j'ai trouvé un article qui regroupe 9 techniques pour tout prioriser. Alors, on va passer par la matrice de priorisation, on va passer par la technique Moscou, ABCDE, la priorisation Scrum de la technique, en fait, qui provient de l'agilité, des techniques d'agilité. On va parler du tri de bulles. On va parler du MIT, c'est une technique de Léo Babota. Et de Ivy Lee, une technique aussi. Et finalement, la 8e et la 9e seront la 1-2-3-9 et la To List méthode. On va commencer tout de suite avec la matrice de priorisation. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un éclectique, je ne me rappelle plus quel épisode, je parlais de la matrice de priorisation d'Eisenhower. L'idée, grosso modo, c'est que vous voyez un tableau à 4 cases. Et c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir prioriser vos tâches. Vous prenez toutes vos tâches et vous pouvez les prioriser selon plusieurs matrices. En fait, je vais vous en parler de 3 particulières. Je vais vous parler de la matrice de Eisenhower, mais je vais passer assez vite sur celle-ci parce que j'en ai fait une émission complète. La matrice d'Eisenhower, vous voyez un tableau séparé en 4, par 2 lignes, par 2 colonnes. Alors, évidemment, la première colonne en haut à gauche, c'est les choses importantes, mais pas urgentes. Alors, vous pouvez classer toutes les choses que vous avez à faire là, qui sont importantes, mais pas urgentes. La cellule de droite, c'est la cellule importante et urgente. La cellule en bas à gauche est pas importante et pas urgente. Et la cellule de droite, en bas, la dernière, est urgente, mais pas importante. Vous comprenez qu'il y a un axe qui est sur l'importance et un axe sur les urgences. L'axe des X est sur les importances, les abscisses, et l'axe des Y est ordonné et au niveau des urgences. Alors l'idée, c'est de classer ça selon 4 grandes catégories. Évidemment, on essaye le plus possible de faire les tâches en priorité qui sont importantes et urgentes. Évidemment, ensuite de ça, on va faire les tâches importantes mais pas urgentes. Et après ça, dans les tâches urgentes mais pas importantes. Tout ce qui n'est pas important et pas urgent, généralement, on n'y touche pas. Il y a un principe de délégation aussi, hein, c'est intéressant dans cette matrice d'Eisenhower-là. Je vous inviterai dans les notes de l'émission à aller écouter l'émission où j'en ai parlé beaucoup plus précisément. On va toujours sur une façon de prioriser les tâches par une matrice. Celle-ci, c'est la matrice... La seconde matrice dont on va parler, c'est la matrice Effort Impact, qui est, dans le fond, assez similaire. On a 4 cases. La première, c'est celle qui demande beaucoup d'efforts avec peu d'impact. La deuxième case en haut à droite, celle qui demande beaucoup d'efforts et qui ont beaucoup d'impact. On descend la ligne d'en dessous, celle qui demande peu d'efforts et peu d'impact. Et finalement, la dernière est, selon cette méthode-là, la plus importante, celle qui demande peu d'efforts et qui ont beaucoup d'impact. Vous comprendrez, l'idée en arrière de ça, c'est de maximiser les tâches qui ont qui demandent peu d'efforts et qui ont un gros impact. Et ça, dans les faits, ça vous aide à prioriser aussi, selon cette matrice-là. Ça, c'est intéressant parce que ça nous force à réfléchir sur les efforts ou l'énergie que ça va demander. Et en fait, quand on parle des fois de la loi de Pareto, vous savez, c'est la loi qui dit que on essaye de faire les tâches qui demandent 20% d'efforts mais qui génèrent 80% des résultats. Alors, c'est un peu le même genre dans cette matrice classée par effort et impact. Dernière matrice dans la façon de prioriser les tâches par une matrice, c'est ceux qui ont, vous allez voir, c'est un peu similaire avec la précédente, ceux qui ont une grande valeur et qui ont un coût. Des fois, tout dépendant des projets que vous avez à faire, ça peut être nécessaire de classer les tâches par rapport à ça. Alors, typiquement pour une entreprise, exemple, ou pour un projet qui aurait un lien avec l'argent, vous allez classer les catégories, vos tâches que vous avez à faire selon quatre catégories. Ceux qui ont une grande valeur et qui ne coûtent pas grand-chose à faire, ceux qui ont une grande valeur et qui coûtent beaucoup à faire, ceux qui ont une peu de valeur et qui coûtent beaucoup à faire, et ceux qui ont peu de valeur et qui ont un peu de coût. Et vous voyez un peu l'idée un peu par rapport à ça, c'est le classement par rapport à l'énergie que ça va coûter, les ressources que ça va coûter par rapport à la valeur que ça va produire. Et ben ça vous aide un peu de classer ces choses-là. Évidemment, vous comprendrez qu'il faut faire dans cette matrice-là, ceux qui ont plus de valeur, ils coûtent le moins cher pour une entreprise. Alors, c'était une méthode de priorisation par matrice. Il y en a trois grosses qu'on a parlé. Alors, c'est assez simple dans les faits de prioriser selon les matrices, mais maintenant, on va prioriser selon la méthode Moscou. La méthode Moscou, en fait, on l'appelle comme ça parce qu'il y a quatre grandes étapes pour vous aider à prioriser. À prioriser, c'est le M qui vient de must have this, c'est-à-dire qui doit être fait, qui sont vitales. La deuxième, c'est should have this, c'est-à-dire qui devrait être fait dans la mesure du possible, on va dire essentiel. La troisième, c'est could have this, qui pourrait être fait dans la mesure où cela n'a pas d'impact sur d'autres tâches confort, on va dire. Et la dernière, c'est won't have, qui, dans le fond, c'est des tâches qui ne seront pas à faire ou que vous ne devriez pas faire du luxe, c'est-à-dire des autres d'optimisation, exemple. On va dire ça comme ça. Alors, c'est assez simple à comprendre de classer sous ces quatre grands critères-là des vitales, essentielles, le confort, on va dire, un peu tout ce qui pourrait être à améliorer. Et ben la dernière, c'est qui ne devrait pas être fait ou que si vous avez rien d'autre vraiment à faire, que vous allez pouvoir faire, là, qui sont dans la mesure où c'est du luxe, des choses non essentielles qui sont juste comme moins importantes que les trois premières. Alors ça, c'était la méthode Moscou. On va passer tout de suite à la troisième méthode, la méthode ABCD. Qui ressemble beaucoup à la méthode Moscou dans les deux premières, c'est-à-dire la première, la méthode ABCDE, les premières tâches qui sont classées dans la zone A, c'est des choses qui sont vitales, des choses qui sont essentielles, des choses qui doivent être faites, vitales pour votre organisation. Les tâches de type B, ce sont des choses qui sont essentielles, mais pas vitales, qui doivent être faites, qui pourraient être faites. Les tâches de type C qui sont agréables, de type des choses un peu comme dans la méthode Moscou, qui sont agréables mais pas tout à fait essentielles, qui font juste améliorer les choses, mais c'est pas du luxe, hein, vous comprenez un peu. Des tâches de type D, où là vous pouvez les déléguer. Là, c'est des choses que vous pouvez déléguer et automatiser. Et c'est là que ça devient intéressant lorsqu'on a eu des automatisateurs automatiques. Lorsqu'on a des outils d'automatisation comme IFTTT, comme Zapier, comme Flow chez Microsoft, c'est des services qui vous aident à automatiser des tâches. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez, quand vous avez des tâches que vous mettez dans ces catégories-là, vous pouvez aller les automatiser, vous devriez les automatiser. Et finalement, les tâches E, c'est des choses que vous devez éliminer. C'est des choses qui sont vraiment, qui n'ont aucune valeur, ça apporte absolument rien, on vous donne ça à faire, mais ça règle rien dans la vie en général. Alors ça, c'est des tâches de type E. Les cinq grandes catégories de la méthode ABCDE. Là, on va parler de Scrum, qui est appelé priorisation dans l'agilité. Les méthodes d'agilité au travail, on en entend souvent parler, peu le font pour vrai. L'agilité à tout vent, c'est bien, mais peu la comprennent. je ne suis pas un spécialiste d'agilité, mais quand j'entends des entreprises qui disent qu'ils sont agiles et puis que je les vois travailler, je me dis que ça doit pas être tellement ça la méthode agile. Dans la méthode agile, il y a une façon de prioriser dans les scrums, dans les rencontres quotidiennes, selon trois critères. Des tâches importantes. En fait, quand vous prenez une tâche, faut déterminer l'importance de cette tâche. Ensuite de ça, faut trouver l'importance par rapport aux autres tâches dans la liste. Et après ça, faut trouver toutes les autres tâches qui dépendent de cette tâche. Et quand vous avez répondu à ces trois questions-là, vous êtes capable d'ordonnancer et de découvrir quelle est la première par rapport au reste des choses à faire, celle qui est la première de toutes et dont laquelle va tout dépendre. C'est un peu une priorisation par rapport à des éléments qui viendraient avant ou après cette tâche-là. Typiquement, si vous avez, je sais pas moi, le projet de refaire un local, on va comprendre que des tâches de construction de murs sont prioritaires à des tâches de peindre un mur ou décorer ou des tâches de décoration. Vous comprenez un peu l'idée de la façon de prioriser selon le Scrum. La cinquième méthode de priorisation est super intéressante. Je la connaissais pas, je la trouve brillante et elle nécessite pas beaucoup d'efforts. Alors, si vous avez des difficultés à classer des tâches parmi plusieurs par rapport à d'autres, exemple la méthode Scrum, la méthode Bubble est le triage de bulles est assez simple. Dans le fond, vous voyez plusieurs bulles alignées les unes aux autres. Alors, bulle A, bulle B, bulle C, bulle D, bulle E. Et ce que vous avez à faire, c'est prioriser l'importance de la bulle A versus la bulle B. Alors, typiquement, ça se pourrait que la bulle B soit plus importante que la bulle A. Alors, vous allez placer la bulle B en premier, la bulle A en deuxième. Après ça, vous allez comparer la bulle A à la bulle C. Et puis, si la bulle C est plus importante que la A, vous comprenez que ça vous allez faire B, C, A, et ainsi de suite. Et vous comparez toujours la dernière bulle que vous venez de classer à la bulle suivante. Ce qui fait qu'après ça, vous allez peut-être avoir un tableau qui va ressembler à je vais juste reprendre mon exemple pour imager ça. Vous allez peut-être retrouver un tableau qui va faire bulle B, bulle A, bulle E, en fait, et ainsi de suite. Vous comprenez un peu l'idée parce que vous avez finalement toujours juste changé l'ordonnancement d'une tâche par rapport à une autre seulement. Et ça vous aide vachement. Je trouve que c'est une méthode très, très simple pour prioriser ce qui est important à faire par rapport à une autre tâche. La sixième tâche nous vient, en fait, la sixième façon de prioriser nous vient de Léo Babota. C'est la méthode MIT, Most Important Task. Grosso modo, c'est de prioriser tous les matins trois tâches qui sont les plus importantes à faire aujourd'hui et de les réaliser. C'est tout simple. Il faut évidemment que ce soit aligné avec vos priorités de votre vie ou les priorités de votre projet ou d'entreprise, et ainsi de suite, mais c'est vraiment de prioriser trois tâches et de les réaliser. Et ne vous continuez pas et vous ne vous arrêtez pas jamais. Vous commencez la première, vous la finissez. Après ça, vous faites la deuxième, vous la finissez, et la troisième, vous la finissez. Et jamais, dans aucun cas, vous devriez arrêter. Alors, pour vous aider à réaliser ce qui est le plus important, je pense que le MIT est assez difficile dans un contexte où on reçoit plein de trucs à faire, mais en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être une méthode à prioriser. Pour vous aider à la réaliser, il y a une application dans Chrome qui s'appelle Momentum, qui, à chaque fois que vous allez ouvrir un onglet dans Chrome, va vous afficher tout simplement l'heure, un petit texte et vos trois tâches que vous avez à faire. En fait, vous allez les mettre dans Momentum et après avoir réalisé la première, vous allez mettre la seconde et ainsi de suite. Ce qui va toujours vous aider à vous concentrer sur ce que vous avez à faire. L'idée en arrière de cette méthode, la Most Important Task, c'est de se focusser sur une tâche à la fois. C'est vraiment ça l'essentiel de cette façon de prioriser des tâches à faire. Septième méthode de priorisation qui peut vous aider, ça s'appelle la méthode Ivy Lee. Ivy Lee avait été embauché dans une entreprise par Monsieur Charles M. Schwab qui avait demandé à un consultant pour l'aider à prioriser ses tâches de son entreprise. Et Ivy Lee, quand il est arrivé dans l'entreprise, lui a dit « Ben, tu me paieras seulement qu'après avoir réalisé l'importance de cette méthode. » Alors la méthode, elle est simple. La méthode, c'est à la fin de chaque journée de travail, on choisit les six tâches les plus importantes qu'on aura à réaliser le lendemain, et le lendemain, on les commence, tout simplement. On commence jamais à prioriser tant qu'on n'a pas terminé les six tâches. Alors, vous comprenez bien que Si la veille, au soir, j'ai priorisé 6 tâches, le lendemain, j'en ai réalisé que 4. À la fin de la journée du lendemain, je rajouterai 4 autres tâches que j'aurai à faire dans ma méthode et au fur et à mesure, je vais pouvoir savoir le lendemain matin tout ce que j'ai à faire. L'idée, c'est que on commence à travailler le matin sans se questionner ce qu'on a à faire. C'était la veille qu'on a fait cette priorisation-là. Et c'est toujours un cycle récurrent. C'est tous les soirs, vous décidez des 6 autres tâches que vous avez à faire pour le lendemain et vous ne terminez vous n'arrêtez jamais dans le fond. C'est toujours de continuer et faut vraiment finir toujours les 6 tâches. Pour la petite histoire, Ivy Lee a été payée 3 mois plus tard par M. Schwab, $25,000 pour lui avoir parlé de cette méthode-là parce que ça avait nécessité, en fait, ça avait beaucoup aidé l'entreprise. Avant, dernière méthode de priorisation, la méthode 1-3-9, qui est assez simple dans les faits. Si vous vous rapportez à une table de priorisation, vous avez la tâche la plus importante que vous avez à faire, une tâche, la plus importante. Après ça, vous avez 3 tâches qui sont peu importante, mais par rapport à la première, évidemment. Et après ça, 9 tâches qui sont de faible importance. Évidemment, vous videz la liste 1, dans laquelle la première tâche à faire. Après ça, vous allez vider vos 3 autres tâches qui sont moins importantes, mais tout par rapport à la première. Et après ça, la liste 9, ou les 9 tâches, les 9 autres dernières tâches. Et ben après ça, ben vous glissez toutes les tâches, toujours les unes aux autres, toujours trouver la plus importante, les 3 autres secondes, et après ça, les 9 autres tâches que vous avez à faire. C'est assez redondant par rapport à ce qu'on vient de dire, mais si vous la classez selon la méthode d'Eisenhower, par exemple, les tâches de type 1 sont les plus importantes et les plus urgentes, les tâches qui sont dans la liste 3 sont des tâches importantes mais pas urgentes, et finalement, ceux qui sont dans la 9, c'est ceux qui sont urgentes mais pas importantes. Dernière liste, dernière méthode en fait, c'est une technique qui nous vient de Warren Buffett, c'est la méthode des 2 listes. Vous prenez toutes les tâches que vous avez à faire et vous allez encercler dans ces tâches-là les 5 plus importantes à réaliser. Alors typiquement, dans la méthode, on explique ça avec un chiffre 25, vous avez 25 tâches. Dans la première liste, vous allez mettre les 5 tâches que vous avez encerclées qui sont les plus importantes. Vous allez, ça devient votre tâche, votre liste de priorité à faire. Et la seconde, qui contient le reste des tâches. Dans les faits, vous ne tomberez pas jamais dans la liste des 20 tâches qui suivent tant que vous n'avez pas terminé les 5 premières. Et évidemment, vous allez toujours après ça glisser les 5 plus importantes en premier à faire et au fur et à mesure, vous allez pouvoir prioriser ce que vous avez à faire. Les 2 dernières méthodes, je vous avouerai que je vous les ai mises là-dedans, mais je trouve qu'elles donnent pas vraiment nécessairement de bons trucs, si ce n'est une méthodologie de travail. C'est vraiment de dire on se focus sur ce qui est important aujourd'hui à faire, les 5 tâches ou la méthode 1-3-9, la première tâche la plus importante. Mais ça donne pas beaucoup d'indications à part de trouver la priorité de ce que vous avez à faire. C'est plus une méthodologie de travail. J'aime bien quand on est auto-entrepreneur la méthode de Léo Babauta, comme je disais. Ce qui est le plus important à faire aujourd'hui est de s'y tenir et de focusser à ça. La façon de prioriser que j'ai bien aimé, c'est la méthode le tri de bulles que j'ai beaucoup aimé. Et finalement, là-dedans, ce qu'il faudrait retenir, c'est vous pouvez à peu près toutes les prioriser selon un outil qui est Trello, qui peut vous aider, ou Google Keep à prioriser, tout dépendant de la méthode. Il n'y a pas une méthode miracle, il y en a plusieurs techniques qui sont intéressantes. Mais je pense que Trello ou des tableaux comme ça pour glisser les tâches les unes aux autres à faire, ça peut être assez intéressant d'utiliser ça pour les classer selon une des méthodes, une des 9 méthodes dont on vient de discuter. Petit moment publicité où je vous explique un peu comment vous pouvez faire pour m'aider, parce que oui, le podcast, je le fais tout seul, mais je le fais aussi grâce à vous et grâce à vos encouragements. Alors, il y a plusieurs moyens de m'encourager. Le premier, qui est assez direct et qui fait vraiment plaisir, c'est la plateforme Patreon, patreon.com, où vous pouvez commencer à m'encourager à partir de 1 euro par mois. Et je vous explique un peu en quelque sorte comment ça m'encourage. D'abord, quand des gens me donne de l'argent, je me sens tout de suite redevable. Et ma façon d'être redevable, c'est de toujours produire. Alors, produire des podcasts, produire des capsules, produire des billets de blog, mais toujours produire. Et ça, c'était vraiment un bon moyen pour moi de m'encourager à produire. Alors, ça paye pas tout, mais ça paye aussi certains autres podcasteurs parce que je me suis abonné à d'autres Patreons via l'argent que vous me donnez. Et en bout de ligne, ben, ça nourrit tout un écosystème de podcasts et de productions auxquelles je participe. Alors, ça, c'est un moyen très direct et très concret pour m'aider à m'encourager à produire. Alors, pour ceux qui l'ont fait, merci à l'avance. Pour ceux qui vont le faire, ben n'hésitez pas, $1 par mois en fait, et ben vous pouvez arrêter ça n'importe quand. C'est très simple et vous pouvez même peut-être donner plus que $1 par mois. Alors merci beaucoup par avance. Il y a aussi un autre moyen de m'encourager. En fait, deux autres moyens qui sont assez assez directs. Le premier en fait, ce serait de relayer les émissions. Lorsqu'une émission sort, ben vous la voyez sur Facebook, vous la voyez un peu partout. J'essaie de publier un peu partout dans les médias sociaux. Et ben de la partager, ça fait du bien de dire que l'émission, vous l'aimez. Et pourquoi vous l'aimez dans les médias sociaux, ça fait du bien. Et ça fait toujours plaisir. Et aussi, ben dites-vous que les recommandations que vous faites à vos personnes, votre entourage, votre réseau, sont toujours beaucoup plus crédibles que n'importe quelle autre publicité que je pourrais faire. Et j'aurais pas... certainement pas les moyens de faire. Alors, si vous voulez m'encourager directement Patreon, indirectement de la publicité que vous pouvez faire dans votre entourage, famille, amis, collègues, et ainsi de suite. Et finalement, le troisième moyen de m'aider, qui est assez concret, c'est de mettre un 5 étoiles dans le catalogue de podcasts iTunes. Alors, c'est un catalogue de podcasts directement sur Apple, on le comprend, mais ceux qui peuvent l'avoir sur PC aussi, vous pouvez le faire, ou dans votre téléphone, mettre un 5 étoiles, un petit commentaire, et ça aide toujours à ressortir un peu l'émission du lot des autres émissions. Alors, merci par avance de m'encourager, merci par avance de publiciser l'émission et de m'aider et de la noter. Merci beaucoup. Là, on va reprendre les cours de l'émission normale. Alors, on va parler des 5 applications et le petit bonus à la fin. Première série d'applications, et je suis content parce que j'ai trouvé le pendant Android de cette application iOS qui est vraiment juste fabuleuse. La première application dont je vais vous parler, c'est une application qui s'appelle SearchCam. L'idée de cette application-là est assez simple. C'est sur iOS, mais il y a aussi le pendant sur Android, ça s'appelle Find It. Dans les deux cas, c'est à peu près la même chose. Vous prenez votre téléphone comme une loupe, c'est-à-dire que vous partez l'application SearchCam ou Find It, et là, dans le fond, vous voyez la caméra. C'est tout simplement ça comme ça. Et si vous avez des longs textes à lire ou des choses comme ça, vous mettez un mot que vous recherchez dans votre application, et automatiquement, elle va le détecter sur la page que vous êtes en train de filmer. Alors typiquement, c'est de la recherche en temps réel dans du papier imprimé. C'est un peu ça l'idée, c'est que vous vous servez de la caméra de votre téléphone pour retrouver des textes qui sont directement dans du papier imprimé. C'est beaucoup plus simple dans les faits si vous aviez le papier en format numérique, si vous aviez le texte en format numérique, mais là, vu que vous l'avez pas, vous avez seulement en format papier, ça vous aide à trouver rapidement un mot de texte ou un élément dans une page. Alors, à quoi ça peut servir? Ben, ça sert des fois à retrouver rapidement dans une série de pages, un livre ou ainsi de suite, un texte. Vous savez, c'est assez simple dans un fichier PDF, dans un fichier Word, de retrouver un texte en particulier quand il y en a plusieurs, mettons 5, 6, 7, 8 pages, et vous dites « Ah oui, je me rappelle qu'il y avait ce mot-là à peu près à tel endroit. » Alors, vous faites un CTRL-F, vous faites un POM-F, vous faites un COMMAND-F, vous utilisez le menu « Rechercher » dans le document, et ça vous amène tout de suite à l'élément que vous recherchiez. Mais quand c'est des choses déjà imprimées, c'est assez difficile. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir le faire de manière numérique dans un monde physique. Alors, ça s'appelle Find It chez Android, ça s'appelle SearchCam chez iOS. Deuxième application, c'est une extension Chrome, ça s'appelle uBlocklist. C'est une extension qui vous permet de blacklister, en fait, des sites web dans les résultats de recherche. Alors, typiquement, quand vous faites des recherches et que vous avez des résultats de sites que vous aimez pas, que vous savez qu'ils sont pas pertinents, ou que vous savez qu'il y a des, comme on dit, des fake news, ça vous permet de mettre ces sites-là dans une blacklist. Et ce qui, ultimement, est agréable, c'est que quand vous faites votre recherche, vous avez plus ces sites-là qui vous pourrissent la vie. Alors, c'est l'application, en fait, c'est l'extension Chrome uBlacklist et ça vous permet tout simplement de blacklister des éléments qui sont nuisibles à vos recherches. Alors, c'est pas ça marche bien pour les résultats de recherche. Toutefois, ça ne fonctionne pas dans les news de Google, dans les résultats de recherche Google, en fait, cette application-là. Évidemment, quand vous êtes dans les news de Google, ça ne bloquera pas ces sites-là, mais au moins, vous aurez des résultats de recherche un peu plus pertinents et vous allez avoir moins de cochonneries, en fait, par rapport à votre usage que vous faites du moteur de recherche. Troisième application s'appelle Track Multiple Time Zone. Moi, comme vous savez, je fais des podcasts avec des gens qui sont dans la francophonie à travers le monde et des fois, c'est un petit peu emmerdant de savoir quelle est l'heure qu'il y a là-bas. Alors, je peux ajouter des heures directement sur mon téléphone, mais sur Mac, j'ai absolument rien. Et maintenant, j'ai trouvé en fait une fonctionnalité, ça s'appelle Clocker Crams. Ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça ajoute un menu dans la barre du haut de macOS, un menu où vous allez pouvoir mettre des fuseaux horaires et rapidement cliquer. Et pour savoir, dans exemple, pour moi, j'aime bien savoir quelle est l'heure en Europe quand j'ai besoin d'intervenir avec quelqu'un. Et ça me fait une belle liste de la France versus la Suisse ou la Belgique. C'est les mêmes heures aux autres, là, mais versus le Québec ou le Canada. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est une petite application, là, ça paye pas de mine, mais ça fait vraiment très bien le travail. Je vous rappelle que si vous avez des Apple Watch, vous pouvez régler plusieurs cadrans. Ça, c'est chouette. Évidemment, sur votre iPhone, vous pouvez mettre aussi plusieurs horloges. Mais quand vous êtes sur Mac, vous allez pouvoir utiliser cette application Clocker Crams. Quatrième, c'est ça vous arrive souvent d'aller sur des sites et de vous faire polluer la vie par des pop-up de services clients. Typiquement, des fois, j'arrive sur des sites et poum, il y a un gros pop-up qui arrive où il y a bonjour, je m'appelle André, et je suis prêt à vous parler, à répondre à toutes vos questions. Et là, ça vous bloque un gros pourcentage de votre écran. Évidemment, c'est des services automatisés. Ça arrive souvent sur des services automobiles, sur des services où on vend des trucs, ça vous pourrit la vie. Il fut un temps où on a bloqué les pop-up quand c'était des fenêtres couvrées à travers le navigateur. Maintenant, avec le HTML5 et le design, c'est un peu plus difficile à les bloquer. Là, ça va, ce plugin-là va juste bloquer les customer service, les services aux consommateurs qui vous pourrissent la vie quand vous visitez un site. Il y en a à peu près 16 qui sont recensés que ce service-là bloque, mais c'est vraiment assez intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez tout bloquer, tout pop-up ou fenêtre interstitielle, comme on dit maintenant, si vous avez uBlock Origin sur votre navigateur, qui est disponible sur Chrome, Safari, et ainsi de suite, là, tous les meilleurs navigateurs. Goodbye aux fenêtres pop-up, parce que ça commence à nous pourrir la vie. Ça commence vraiment à nous pourrir la vie. Dernière application, c'est pour ceux qui utilisent des services style Pocket. Vous savez, ces services où on envoie un article intéressant à lire pour plus tard. Moi, je suis une personne qui fait ça, mais le problème, c'est que je commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes à lire pour plus tard. Et des fois, quand j'en ai 20, 30, 40 textes à lire pour plus tard, je retourne plus dans Pocket parce que je me sens un petit peu oppressé quand j'ouvre mon application pour savoir laquelle je vais lire en premier. Cette application-là s'appelle ReadingQ, ReadingQ, Q-U-E-U-E, la queue de lecture, on va dire ça comme ça. Va vous aider à vous discipliner sur tout ce que vous allez mettre dedans. Typiquement, quand vous l'ouvrez, ça va ouvrir juste un article que vous avez à lire et vous allez pouvoir, après ça, dire « archive-le, je veux pas le lire » ou « rappelle-moi-le pour plus tard ». Et après ça, vous allez pouvoir aller directement à l'autre article que vous avez à lire. Grosso modo, ça va vraiment vous aider à vous focusser à juste lire. Sur le site, ils disent c'est de on utilise maintenant beaucoup le terme Marie Kondo. C'est même maintenant un verbe. Ça va vous permettre de Marie Kondoiser les listes de lecture que vous avez à faire, les articles que vous avez à lire. Alors évidemment, il y a un petit peu d'intelligence là-dedans. Parce qu'à un moment donné, si vous mettez toujours un article à lire pour plus tard, après 2-3 reprises, il va dire, regarde, tu veux-tu vraiment lire ou on peut le supprimer? Il y a aussi des fois où il va vous dire, regarde, tel article, là, ça fait plus de 30 jours que tu l'as mis en archive, en fait, que tu l'as pas lu. C'est encore vraiment pertinent. C'est pas des gros pop-up dans la fenêtre, ça vient du bas, à partir du tiroir du bas dans iOS. Mais je trouve ça vraiment intéressant dans la mesure où, ben, des fois, on se sent submergé par rapport à tout ce qu'on a à lire et tout ce qu'on a à faire. Et ben, quand on utilise des listes de lecture type Pocket, ben, on retombe là-dedans, on sait plus comment les classer ou comment les archiver. Avec cette application-là, Reading Queue, ça vous permet de vous assurer de lire ce que vous voulez vraiment lire et de faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire qu'une fois que c'est lu, on la supprime. Alors, c'est disponible sur iOS, mais c'est aussi disponible sur macOS, il y a une application macOS, et ben c'est gratuit, c'est bien fait, c'est assez simple, c'est même très simple en fait, c'est intuitif. Vous ouvrez l'application et vous avez directement l'article. Et évidemment, quand vous êtes dans Safari, quand vous êtes sur Twitter, sur Facebook, vous avez juste à faire le bouton partage pour envoyer les articles à lire pour plus tard. Et puis après ça, tout va bien se passer. Reading Queue va s'occuper de vous organiser. C'était les 5 applications ou services dont je voulais vous parler. Le dernier, la petite primeur, le petit plus que j'avais à vous donner dans l'application, c'est un site web, ça s'appelle Weebly. En fait, c'est un site web qui a été fait sur Weebly. Et ça vous permet de paramétriser votre iPhone avec des wallpapers. Alors, typiquement, ce que ça permet de faire, ça permet de mettre un wallpaper spécial pour le lock screen, un wallpaper spécial pour le lock screen avec animation, de mettre un wallpaper spécial pour la page d'accueil et ou de mettre des effets de couleur. Tout ça avec une simple image. Ça part du principe où, quand vous êtes sur votre lock screen avec iOS, avec iPhone, vous avez juste deux boutons en bas. Vous avez la torche, la lampe torche, la lumière, et le téléphone. Ben lui, il a mis un wallpaper spécial pour mettre de l'emphase sur ces deux actions-là. C'est assez difficile à vous expliquer en audio. Je vous conseille de cliquer sur le lien et vous allez tout comprendre. C'est fonctionnel. Il fait des wallpapers pour toutes les iPhones XI, XS, X, iPhone 8 et ainsi de suite. Où vous avez exactement les bonnes dimensions pour mettre des paramètres. C'est des wallpapers assez efficaces. J'ai bien aimé aussi les wallpapers home screen avec un contour fin de juste un pixel, mais qui, avec les effets de tamisés que iOS fait, ça vous donne un autre apparence à votre iPhone sans vraiment rien changer, sans mettre aucun autre paramètre qu'un wallpaper. Ça bénéficie des effets visuels qu'iOS fait et je vous conseille d'aller voir une vidéo YouTube, elle dure 4 minutes, ça va vous expliquer grosso modo ce que ça fait, ça va vous le montrer, c'est vraiment chouette, et ben c'est une personnalisation sans avoir rien à toucher, sans mettre d'application, sans rien faire, juste avec des images, et dans l'actualité, en fait dans la vidéo YouTube, vous allez pouvoir simplement télécharger les bons fichiers qui sont... les bons fichiers qui vont bien et qui font ces effets-là particuliers. C'est dur à expliquer en audio, je vous réfère vraiment à la vidéo YouTube. C'est ce qui met fin à l'émission. Je vous rappelle que si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire dans la section « Contactez-moi » de tous mes sites, à peu près partout. Vous pouvez le faire aussi, idéalement, sur Twitter, à @profduweb, et aussi sur le site profduweb.com. N'oubliez pas d'aller noter l'émission, n'oubliez pas de mettre des commentaires et de faire évoluer le schmilblick, comme on dit, si vous avez des choses qui vous ont interpellé pendant l'émission, ou si vous voulez donner des compléments d'information, ça fait toujours plaisir de mettre ça dans le site de l'émission. Et puis, je vous rappelle vos devoirs pour le mois d'apprendre, d'aimer et de partager. Je vous souhaite un très bon mois.